France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
La vie humaine a un prix. Chaque jour, nous y sommes confrontés, mais l'habitude n'y fait rien. Ce rapport entre des vies détruites ou sauvées et des biens gagnés ou perdus est étrange et ne cesse de questionner. Bonjour Ariel Kolonomos.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS, chercheur au CERI, enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'éthique des relations internationales et auteur de ce livre « Un prix à la vie, le défi politique de la juste mesure » publié fin juin aux presses universitaires de France. Livre écrit avant la pandémie, mais qui offre un cadre de réflexion très intéressant pour lire la situation actuelle. D'abord, il faut bien comprendre ce que vous expliquez dans ce livre. La phrase que j'ai citée en est issue. Et justement, oui, commençons par là. Ariel Kolonomos parlait du prix de la vie. Ça heurte de prime abord, ça heurte notre morale, notre éthique, nos valeurs.
Absolument. Enfin, nous sommes habitués moralement à considérer que la vie n'a pas de prix. Ou bien que le prix de la vie est infini. Certains pourraient vous dire que aussi sauver une vie, c'est sauver le monde. Ces considérations, elles peuvent être tout à fait valables et elles ont leur place dans une discussion morale. Ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est traiter de front cette question-là d'un point de vue politique. Pour ma part, je suis parti du constat que dans de nombreuses situations, la question du prix de la vie est une question centrale pour le politique. Et ce prix de la vie, il se décline de deux manières. C'est d'une part, le politique paye avec des vies la poursuite de ses intérêts. Lorsqu'un État est en guerre, il décide de mettre en danger la vie de ces soldats qui vont partir dans cette guerre, et il décide aussi de tuer des ennemis, des soldats, et il décide aussi de tuer des civils, le plus souvent aujourd'hui non intentionnellement. Donc il va payer avec des vies la poursuite de ses intérêts. Le deuxième volet, et ce deuxième versant du politique, il y en a deux, c'est payer pour des vies. Lorsque, des États, des institutions politiques décident de sauver des personnes, et cela en faisant des choix qui peuvent être coûteux en termes d'intérêt. En termes d'intérêt qu'ils soient monétaires, par exemple l'aide internationale, mais aussi dans une guerre. Lorsqu'un État déclare une guerre pour des raisons humanitaires, il va céder sur ses propres intérêts, déclarer partir en guerre ce n'est pas rien, pour sauver des personnes. Lorsqu'il s'agit de réparer des injustices historiques, et c'est beaucoup le cas aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, mais aujourd'hui c'est une question importante, des États peuvent réparer des injustices liées à des guerres qui peuvent être passées, longtemps passées, par exemple la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi des injustices qui sont bien plus anciennes, par exemple les questions de l'esclavage. Ces phénomènes, ces questions s'agrègent et elles m'ont amené à considérer que non seulement le prix de la vie est une question politique, mais qu'elle est constitutive du politique. Le politique, ce n'est pas uniquement la poursuite des intérêts, c'est une vision assez désabusée, que certains considèrent réaliste, parce qu'ils disent la réalité du politique, c'est la seule poursuite des intérêts. Ce n'est pas uniquement ça, mais ce n'est pas non plus de l'angélisme. Le politique, justement, c'est différent de l'éthique, c'est différent aussi de l'idéalisme. On ne paye pas pour des vies coûte que coûte. Ce sont les deux. Et c'est pour cela que dans le politique, il est question de justice. Il est question d'équilibre
et de juste
entre ses intérêts et ses vies. Et de juste mesure, justement.
Pour le sous-titre de votre livre. Alors, pour expliquer aussi, continuer à expliquer ce que vous décrivez, ce que vous avancez dans ce livre, il y a aussi l'idée qu'il faut expliquer, selon laquelle le prix de la vie s'élabore au confluent, écrivez-vous, de trois ensembles que sont l'État, la communauté et le marché. Expliquez-nous ça.
Oui, alors, dans ces trois instances, dans ces trois domaines, le prix de la vie est une question centrale. Dans nos systèmes politiques, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, l'État reste l'acteur central du politique. Et l'État est vraiment cet arbitre des vies humaines, lorsqu'il fait des choix en matière de sécurité, lorsqu'il fait des choix en matière d'économie, lorsqu'il fait des choix en matière de santé, eh bien, l'État est cet arbitre des vies. Et il doit calculer. L'État est un calculateur. Mais le prix de la vie ne se limite pas à l'action de l'État. Lorsque, au sein d'une communauté, le membre de cette communauté, un membre de cette communauté, est en danger, il y a parfois, souvent, des relations de solidarité qui permettent à la communauté de décider de venir en danger en vue de sauver un de ses membres. La communauté se mobilise et en se mobilisant, elle accorde, elle donne un prix, un équivalent matériel à la vie d'un de ses membres. L'aide à une personne, la philanthropie par exemple. Et enfin, le troisième terme, c'est le marché. C'est celui qui peut choquer le plus peut-être. Mais lorsqu'il est question de verser un salaire à une personne qui est dans le besoin, après tout, c'est une façon de valoriser son travail et aussi de valoriser sa vie. Par ailleurs, de manière plus précise, certains économistes élaborent une mesure qui peut sembler surprenante, qui est la mesure de la valeur de la vie statistique. Et la valeur de la vie statistique, c'est attribuer une valeur monétaire à une vie humaine, et c'est souvent utilisé dans des assurances, mais également pour l'État. Et ça, c'est une logique de marché. Donc, les pratiques assurantielles, eh bien, aussi, elles produisent une valeur de la vie. Et toutes ces différentes évaluations, elles entrent dans un débat qui est véritablement politique. L'État, d'ailleurs, se sert de la valeur de la vie statistique lorsqu'il est question d'investir en matière de sécurité, dans des infrastructures routières. Combien de morts dans une route qui doit être entièrement refaite et donc nécessite un investissement important?
Alors, Ariel Colonomo, cette question du prix de la vie et tout ce que vous développez dans ce livre, c'est très clairement ce qui a été et ce qui est encore en jeu dans la crise que nous vivons. On a beaucoup commenté au début de cette crise le retour de l'État et en l'occurrence chez nous comme dans beaucoup d'autres pays, c'est ce que vous appelez l'État philanthropique qui s'est affirmé avec le confinement, c'est-à-dire le choix de payer pour des vies.
Oui, donc il y a ces deux versants du politique et ces deux versants de l'État. L'État qui paye avec des vies et l'État qui paye pour des vies. Dans ce livre, la thèse que je développe est de dire que l'État philanthropique, en opposition à un État patriarcal qui paye avec des vies, cet État philanthropique qui paye pour des vies correspond à un versant qui est de plus en plus prédominant. Je ne dis pas du tout que l'État ne paye plus avec des vies pour servir ses intérêts, ce serait extrêmement naïf et c'est faux tout simplement, mais l'État qui paye pour des vies est un versant qui ressort particulièrement dans la vie politique aujourd'hui. Et il me semble que la Covid est un des exemples les plus spectaculaires de ce phénomène. Là encore, enfin bon, voyons la chronologie, enfin de l'histoire récente de cette pandémie. À l'origine, semble-t-il, le coronavirus naît en Chine, enfin en tout cas d'après les informations dont nous disposons.
On en sait jusque-là, oui.
Et la Chine tait pendant très longtemps, et à mon sens c'est très grave, la présence de ce virus. Elle le tait parce que c'est embarrassant et parce que ça nuit à ses intérêts. Ça nuit à ses intérêts internes. Arrêter une économie, c'est très coûteux, et aussi vis-à-vis du reste du monde. Ensuite, il n'est plus possible de faire le silence, d'imposer le silence. Et la Chine reconnaît que le coronavirus est présent. On nomme le coronavirus, on appelle ça une épidémie à l'époque. Et la Chine, ensuite, fin janvier, met en place un confinement. Et le confinement, c'est très coûteux. C'est très coûteux pour une économie. Elle le fait à une échelle régionale. Et puis ensuite, que voit-on ? Des États où, eh bien, le coronavirus est en train de se diffuser, qui mettent en place des confinements qui sont nationaux. Mmh. Et ça nous a surpris d'ailleurs, enfin assez relativement rapidement. Enfin bon, d'abord certaines premières mesures ont été prises, mais ensuite le confinement a été décrété. Et là, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit un État qui paye pour des vies. Et ce qui m'a particulièrement frappé au cours des derniers mois que nous avons vécu, c'est justement le calcul de la vie et le calcul du prix de la vie au quotidien, notamment à travers l'information en continu. Vous aviez à la fois des bilans des morts et des bilans économiques, des pertes en raison des confinements. Et mieux encore, eh bien, vous aviez des prédictions du nombre de morts à venir si le confinement n'est pas poursuivi, et des prédictions économiques du prix des confinements. Et le prix de la vie, c'est ça.
Oui. Et maintenant, on est dans un moment aussi où on a des prédictions économiques versus les chiffres de l'épidémie qui seraient en train de repartir. On va en parler, mais d'abord, ce choix donc qui a été fait chez nous et dans plusieurs pays de payer pour des vies, il a été assez peu débattu. Et surtout, il a été vraiment présenté, formulé comme cela, y compris dans le discours justement de nos gouvernants. C'était vraiment « restez chez vous pour sauver des vies ». Mais dans le même temps, il y a d'autres pays où le choix a été différent. On pense au Brésil en particulier, où ça a été formulé, là pour le coup, cet arbitrage par Jair Bolsonaro. On n'arrête pas l'économie et on accepte de perdre des vies pour cela.
Absolument. Tous les États ne sont pas comportés de la même manière. Cela étant, une majorité d'États ont tout de même décidé de confiner et de faire ces choix coûteux. Mais absolument, vous avez raison. Enfin, moi, ce qui m'a particulièrement surpris, c'est la première réaction de la Grande-Bretagne et de Boris Johnson qui dit, voilà, le coronavirus est présent, voilà, il est là, nous allons souffrir et nous devons accepter de perdre certains de nos êtres chers. Et cette phrase était stupéfiante. Parce que là, on voit cette logique du payer avec des vies. La vie économique et la vie politique doit continuer. Et nous, eh bien, nous tenons ferme. Eh bien, nous allons accepter des pertes de vie. Ensuite, il va changer d'avis.
En raison... Et être malade lui-même.
Oui, une ironie du sort, et il tombe malade, il doit ensuite remercier les infirmiers, par ailleurs portugais, qui l'ont sauvé. Enfin, et il change d'avis en raison notamment des prédictions qui sont faites par les épidémiologues qui travaillent avec lui et qui lui disent « si nous ne confinons pas, ce sont 150 000 morts en Grande-Bretagne ». Et ça, c'est un coût humain insupportable. Et on voit l'État qui calcule. Mais certains autres États, Bolsonaro en effet, on remarque que certains dirigeants populistes en effet ont des réticences à l'idée du confinement. Trump lui-même s'est engagé dans un confinement, mais plutôt à contre-cœur. Et il aurait voulu même sortir plus tôt. À l'époque, en mars, il déclarait que le jour de Pâques, Easter, c'est très important pour nous, les églises doivent être remplies. Oui. Il ne l'a pas fait. Et dans certains États américains aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans certains États américains, la population elle-même ne souhaitait pas se confiner.
Absolument. Il y a eu des manifestations contre des mesures prises dans certains États. Alors, en même temps, quand vous dites, Ariel Colonomos, on a payé ici donc pour des vies, on a payé et on va payer cher, effectivement, et certains plus que d'autres, parce que cette crise à la fois sanitaire, économique, sociale, elle touche davantage les plus fragiles, y compris par là les plus précaires. Et ce qui est ressorti aussi très fort avec cette crise, ce sont les inégalités et le sentiment que certaines vies valent plus que d'autres.
Oui, Notamment aux États-Unis, aussi en raison, eh bien, de la précarité sanitaire de nombre de personnes, eh bien, on se rend compte qu'il y a des catégories de la population, des pauvres et notamment des Afro-Américains qui sont particulièrement touchés par le virus. Donc, il y a, oui, une inégalité face à la santé. Cette inégalité face à la santé, elle existe déjà, mais là, en période de pandémie, elle est d'autant plus renforcée. Mais il faut dire que tout de même, malgré la présence de ces inégalités, les États ont fait des choix qui sont extraordinairement coûteux lorsque l'on compare dans l'histoire des pandémies, lorsque l'on compare cet épisode que nous avons vécu avec des pandémies qui par ailleurs ne sont pas tellement anciennes, 1968, la réaction des États n'a pas du tout été la même. On a aujourd'hui payé pour des vies, on a beaucoup, beaucoup payé pour des vies, à tel point que notre président avait dit que, eh bien, l'État payera coûte que coûte. L'État ne peut pas payer coûte que coûte, mais l'État paye beaucoup. Et je trouve que cette évolution qui va dans le sens de favoriser la vie humaine, qui est vraiment s'inscrit dans une évolution historique du politique, du pendule. Le politique, tel que je le considère dans ce livre, est un pendule. Il oscille pour donner une indication du prix de la vie humaine, et il se déplace d'un versant à l'autre, le versant du payer avec des vies vers le versant du payer pour des vies. Mmh. Et c'est la direction que nous prenons, et cette pandémie la confirme.
Et là, en même temps, là maintenant, aujourd'hui, nous sommes aussi dans un moment de tension où on sait qu'il va peut-être y avoir une reprise de l'épidémie, une deuxième vague, bon, en tout cas que c'est possible, et que on comprend bien aussi que tout est fait pour éviter d'avoir à faire de nouveau ce choix radical du confinement général. Donc, ce débat aussi entre payer pour des vies, payer par des vies, il est peut-être aussi encore devant nous. Nous allons peut-être aussi de nouveau devoir le discuter, non ?
Absolument, et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé au cours de ces derniers mois et ces dernières semaines. C'est le débat autour du déconfinement. Mmh. Quand sortir du confinement ? C'est extrêmement difficile comme décision à prendre pour le politique. Vous devez vous reposer sur des prédictions qui elles-mêmes sont discutables et trouver le bon moment. Le moment opportun, ce qui est d'ailleurs une question politique très importante chez les Grecs, c'était le kairos, enfin ce bon moment où il faut sortir. Et ce choix sera toujours critiqué. Il y a déjà des recherches qui portent sur, eh bien, quel a été le coût de la sortie ou de l'entrée à tel et tel moment, et l'État aurait dû agir autrement. Mais déconfiner, c'est accepter. Et ça, il faut le politique, cette fois-ci, ne l'a pas mis en avant. Il a mis en avant qu'il payait pour des vies, mais il ne pouvait pas tout simplement admettre que déconfiner, c'est aussi payer avec des vies, mais le moins possible. Mais parce que, eh bien, il y a la logique des intérêts qui est incontournable.
Du bénéfice-risque, même si ce n'est pas joli à dire, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. Ce qui est devant nous aussi, Ariel Colonomos, et qui va mettre en jeu cette question du prix de la vie, je crois, c'est le vaccin, et qui y aura accès et à quel prix, pour le coup.
Alors ça, c'est une autre question qui est passionnante. Et là, bon, c'est vrai qu'au départ, avec le confinement, nous avons été un peu pris de court par cette pandémie subite et la nouvelle de son apparition. Mais là, pour le vaccin, je pense que c'est un débat qu'il faut préparer. Et c'est une question extrêmement importante. Et là, on s'y prépare d'une certaine manière parce qu'on voit les États prendre position déjà à propos de cette question. Et on voit aussi, justement, vous y faisiez référence, on en parlait il y a 10 minutes, le marché. Parce que c'est un énorme marché, le marché de la santé et le marché des vaccins. Et là, la question, c'est quel sera le prix du vaccin ? Le prix qui permettra de faire à ces entreprises de faire un bénéfice. Après tout, c'est juste, elles ont investi dans la recherche, certaines vont gagner, d'autres vont perdre. Ou bien le prix coûtant. Et d'ores et déjà, certaines entreprises ont déclaré que le prix de ce vaccin sera un prix coûtant, elles ne feront pas de bénéfice. Mais le bénéfice sera ailleurs, ce sera celui de la gloire d'avoir trouvé ce vaccin qui va sauver des centaines de milliers de vies humaines.
Ariel Colonomo, chercheur au CERI, auteur donc de ce livre, un prix à la vie, le défi politique de la juste mesure, publié aux presses universitaires de France. Nous vous retrouvons après le journal de 8h et la chronique de Libération pour poursuivre cette discussion. On abordera aussi cette piste que vous donnez à la fin de votre livre d'une assurance mondiale et qui là encore évidemment peut se lire au regard de la crise que nous connaissons.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Il est 8h20 et nous retrouvons notre invité Ariel Colonomos, directeur de recherche CNRS, chercheur au CERI, enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'éthique des relations internationales et auteur de ce livre, cet essai, Un prix à la vie, le défi politique de la juste mesure, publié aux presses universitaires de France. Nous avons parlé avant 8h de ce que vous développez dans ce livre, ce prix de la vie qui s'élabore au confluent de l'État, la communauté, le marché, de l'État philanthropique qui paye pour des vies et de l'État patriarcal qui paye par des vies. Parler aussi de la manière dont tout cela éclaire ce que nous vivons avec la pandémie. À la fin de ce livre, Ariel Colonomos, écrit encore une fois avant la crise, vous présentez une piste de réflexion que vous présentez comme un défi au libéralisme, une assurance mondiale. Qu'est-ce que c'est ?
La vie est valorisée dans ces trois espaces, l'État, le marché et la communauté. Et une personne dont la vie est en danger peut se rattacher à l'une de ces sphères ou peut-être à plusieurs d'entre elles, à deux, voire à ces trois sphères en même temps. Mais qu'en est-il des personnes qui ne sont liées à aucune de ces sphères ? Qu'en est-il de ces personnes qui ne peuvent pas reposer sur un État pour le sauver? Qu'en est-il de ces personnes qui ne sont pas liées à une communauté qui aurait des ressources suffisantes pour lui venir en aide? Et qu'en est-il de ces personnes qui ne s'inscrivent pas dans un marché ou qui ne bénéficient pas d'une assurance sur ce marché? Ces personnes-là sont véritablement sans filet. Par exemple, un otage qui dont l'État refuse de négocier avec les ravisseurs. Cet État impose au marché de ne pas verser de rançon. Les compagnies d'assurance ne peuvent pas verser de rançon. La communauté à laquelle il appartient, par exemple sa famille, ne peut pas négocier avec ses ravisseurs. Cette personne est sans filet. Pour lier cette question à la Covid, imaginons une famille indienne appartenant à la communauté des intouchables dans un des 600 000 villages de l'Inde. Le père de famille, qui travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille, meurt. Sa femme, sa veuve, est sans ressources. Ses enfants sont dans le besoin. Elle ne peut pas compter sur l'État indien. Elle ne peut pas compter sur la communauté des intouchables, notamment parce que cette communauté est peu pourvue de ressources, et elle n'a pas accès au marché. Elle est véritablement seule. On pourrait parler des réfugiés climatiques, etc. Mais qu'en est-il de ces personnes qui sont seules ? Elles passent à travers les mailles du filet. Le cas de la Covid, mais également le cas des otages et de ces personnes auxquelles on ne vient pas en aide. Ouais. Et là, enfin, je sais que vous en avez beaucoup parlé sur France Culture, mais je voudrais rappeler qu'une de mes collègues au CERI est actuellement emprisonnée injustement en Iran. Et elle est une otage de l'État iranien. Mmh. Et il faut lui venir en aide. Fort heureusement, la France fait des efforts pour secourir.
Elle a été condamnée en appel.
Elle a été condamnée injustement pour des raisons tout à fait fantaisistes à 5 années de détention. L'État français fait des efforts pour venir en aide aux personnes qui sont prises en otage. C'était le cas de mon collègue Roland Marchal. Mais il faut poursuivre ces efforts. Pour certaines personnes sont esselées. Que pourrait-on faire lorsque ces trois instances font défaut. À propos du Covid-19, certains économistes proposaient un revenu mondial, par exemple. Il me semble que dans des situations d'urgence comme celle-ci, je reprends ce cas hypothétique, mais qui correspond à une réalité, notamment en Inde, mais dans d'autres pays du Sud, eh bien, il faudrait qu'une assurance mondiale prenne en charge la vie des personnes dont, par exemple, le conjoint ou la conjointe est décédé. Et à ce moment-là, à l'échelle internationale, des États, des communautés, par exemple, sous la forme d'organisations philanthropiques ou d'ONG, ou des entreprises qui ont souvent intérêt à ce que l'on parle d'elles comme des acteurs économiques qui font du bien, pourraient s'associer pour constituer des fonds pour venir en aide à ces personnes-là. Là, on se trouve dans une logique qui est celle de l'urgence, où il faut valoriser ces personnes dont la vie ne vaut rien. Tout comme ces réfugiés qui meurent en mer en Méditerranée. Il y a dans le monde des personnes qui ne sont pas rattachées à des États, qui n'ont pas accès à un marché du travail ou à des assurances privées et dont les communautés ne peuvent rien. Et cette sensibilité nouvelle que nous avons vis-à-vis des vies humaines, ce changement qui est très important, qui est là depuis plusieurs décennies, mais qui, à mon avis, est en train de s'accélérer comme on le voit à travers le cas de la Covid-19, devrait être l'opportunité pour réfléchir à des solutions qui ne sont pas uniquement théoriques et ce n'est pas le fruit de travail en bibliothèque, mais ce sont des questions véritablement d'ordre pratique pour sauver des vies.
Et en même temps, vous êtes spécialiste de relations internationales. Ça, ce que vous décrivez là, ça suppose aussi quand même une coopération quand même assez avancée. Or, on sait qu'on n'est pas exactement dans ce moment-là non plus.
C'est les États, au regard des vies humaines, en règle générale, au mieux s'intéressent prioritairement aux vies de leurs citoyens. C'est notamment le contrat qu'ils passent avec leurs citoyens. Mais en même temps, parfois, ils s'intéressent aux vies distantes, aux vies lointaines. Et c'est ce que nous avons vu à travers notamment les interventions militaires, humanitaires, la responsabilité de protéger, etc. Mais c'est vrai que la coopération reste difficile. Mais dans le cas d'une pandémie notamment, nous sommes tous dans le même bateau.
Interdépendant,
oui.
Comme on l'a dit.
Il serait inhumain et stupide du point de vue de l'efficacité, notamment, et du point de vue de l'intérêt, de ne pas coopérer. Et c'est ce qui... Finalement, la coopération existe lorsque vous avez deux choses. D'une part, des valeurs altruistes qui valorisent la coopération, mais aussi un calcul qui montre que c'est dans l'intérêt de tous de coopérer. Et je crois qu'aujourd'hui, notamment en raison justement du fait que, on met l'accent sur la philanthropie, on voit aussi l'intérêt de la coopération. Tout le monde a à gagner à cette coopération. Et c'est ce qui fait ce mouvement d'accélération et cette prise en compte plus importante et cette sensibilité plus importante vis-à-vis de la vie humaine. Mais peut-être que dans 20 ans, on trouvera qu'on n'a pas fait assez aujourd'hui. Mais cette dynamique est là. Peut-être aussi qu'elle s'interrompra et qu'il y aura une catastrophe où chacun veillera à ses intérêts. Mais je pense que c'est un moment qu'il faut saisir, une opportunité importante.
Je voudrais que l'on termine avec un autre aspect que vous développez dans votre livre, Ariel Kolonomos, un questionnement sur le prix des vies passées ou futures par rapport au prix des vies présentes. Et là, on pense évidemment pour les vies passées au débat qu'il peut y avoir concernant l'esclavage et les réparations, qui reste un débat, et pour le futur, aux enjeux climatiques. Est-ce que vous dites bien, c'est qu'on a du mal justement avec cette évaluation du passé comme du futur par rapport à notre présent.
Oui, parce que habituellement, et ce n'est pas absurde, on a tendance à privilégier la valeur des vies présentes. C'est une question d'urgence et on est responsable vis-à-vis des personnes qui sont en vie, vis-à-vis de nos citoyens, vis-à-vis des citoyens du monde. Les liens qui nous attachent aux vies passées sont d'une autre nature et d'une certaine manière plus faibles, parce que notre priorité est le présent. Et quant au futur, bien évidemment qu'on a une responsabilité vis-à-vis des générations futures, mais là aussi, on pense en premier lieu au présent, et on peut se dire aussi que les mesures qui sont qui seraient destinées à sauver des vies futures pourraient être prises plus tard. Sauf qu'avec la logique du climat, en effet, il y a parfois un point de non-retour qui est franchi et il sera trop tard ensuite, ou encore plus coûteux, de prendre ces mesures de protection. Mais le politique doit arbitrer en fonction également de cette variable. Dans quelle mesure peut-on privilégier les vies présentes et à quel point? Mais se tourner vers le passé pour faire acte de réparation vis-à-vis d'injustices passées est une question qui est à mes yeux importante. Elle est très critiquée. Certaines personnes vous diront que, les États aujourd'hui qui sont sommés de verser des réparations pour l'esclavage, aujourd'hui ne sont pas responsables.
Oui. Et par ailleurs, c'est difficile à évaluer justement.
Et
par exemple,
c'est difficile à évaluer, mais certains économistes arrivent à des sommes qui, à mon avis, ne peuvent pas être versées en tant que telles, mais un geste devrait être fait qui aurait une signification politique extrêmement importante au regard d'injustices qui ont lieu aujourd'hui, au regard de questions qui se posent aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup frappé dans l'actualité récente, c'est aussi le mouvement Black Lives Matter, où là on voit la valeur des vies humaines qui est présentée dans l'espace public et aussi une question qui se diffuse d'un pays à l'autre.
Absolument. Merci beaucoup, Ariel Colonomos. Votre livre, Un prix à la vie, le défi politique de la juste mesure, est publié aux Presses universitaires de France. Et vous en avez parlé, il y a toute une partie très intéressante, très importante dans votre livre sur les otages. Je renvoie là-dessus sur franceculture.fr vers les matières à penser, puisque vous étiez venu parler de cette question avec Antoine Garapon. C'était le 6 mars dernier. Merci beaucoup.